Le programme qui va suivre vous est présenté par le ministère enseigne-moi.com. Soyez transformés par l'enseignement de la parole de Jésus-Christ.
C'est pourquoi en son nom, je pose les mains sur les malades et ils sont guéris.
Jésus marche.
Jésus libère.
Jésus rétablit.
Nous avons la parole de Dieu qui renverse des chaînes, des forteresses.
Qui passe du nom de chrétien au nom d'enfant de Dieu.
Je n'ai ni force, ni raison, ni sagesse pour me relever. Enseigne-moi.
Troisième cours sur repentance, nouvelle naissance, baptême du Saint-Esprit. Je vous rappelle que ce cours a un titre qui est très long parce que c'est un cours qui est en trois parties. La première partie, c'est la repentance. C'est ce que nous sommes d'ailleurs en train d'étudier. La deuxième partie, on parlera de la nouvelle naissance. Et la troisième partie, nous parlerons du baptême du Saint-Esprit. Nous avions déjà vu les choses suivantes à propos de la repentance. D'abord, nous avons remarqué que dans Luc chapitre 13, Jésus fait un commentaire sur des événements d'actualité. Il y a eu des catastrophes, il y a eu un certain nombre de choses qui se sont passées, quelqu'un qui a fait un massacre et une tour qui est tombée sur des gens. Et Jésus met l'accent sur la repentance en disant de toute façon, c'est pas ces gens-là qui étaient plus ou moins coupables. Ils n'ont pas demandé d'être là au moment où la tour est tombée, ils n'ont pas demandé d'être mêlés à des gens qu'on prend comme ça et qu'on va tuer et à qui on va faire du mal. Par contre, Jésus nous dit... Il y a une sécurité, il faut se repentir. La repentance, sinon de toute façon, que vous mouriez à un jeune âge, que vous mouriez à un grand âge, de toute façon l'homme doit mourir un jour, il a une date limite, et dans cette date limite, avant cela, il doit prendre une décision, et entre autres, de se repentir. Alors nous avons vu aussi que dans Actes chapitre 2, quand Pierre, juste après la Pentecôte, commence à prêcher Jésus, la Bible nous dit qu'ils ont le cœur vivement touché, au verset 37 et 38, et ils disent « mais qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse ?» Ils ont le cœur touché, ils entendent le message, ils disent « mais c'est vrai ce Jésus, on voulait l'éliminer ». Et finalement, il y a une vérité ici, qui nous a complètement échappé. Et en fait, ces gens-là disent « mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse ?» Et Pierre leur dit « repentez-vous ». Nous avons donné la définition de la repentance, nous avons vu que se repentir, c'est se détourner du péché de manière générale et se tourner vers Dieu. Nous avons remarqué que dans une vraie repentance, il y a deux aspects. L'aspect de « je marche donc dans une certaine direction », quelle est la direction d'un pécheur? Le péché et l'enfer. Au bout d'un moment, il entend le message de l'Évangile, le Saint-Esprit va commencer à mettre une conviction, que la Bible appelle la conviction de péché, chez cette personne. Et cette personne, d'un seul coup, réalise qu'elle est perdue, réalise que vraiment, elle ne peut pas continuer comme ça. Il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe dans sa vie. Et à ce moment-là, cette personne commence à se poser des questions sur qu'est-ce qu'il faut faire? Comment je peux me sortir de cette situation à propos de mon éternité, à propos du problème de la mort, à propos du problème de mon péché? Et cette personne désire à ce moment-là se détourner de son péché et se tourne vers la croix de Christ. Une vraie repentance, bibliquement parlant, je vous rappelle, à ces deux facettes. Je me détourne du péché, je me détourne de ma vaine manière de vivre et je me tourne vers quoi? Vers la solution que Dieu a pourvue en Jésus-Christ. Ce n'est pas une des solutions qu'il y aurait peut-être pour l'homme, mais c'est vers la solution. C'est ça la vraie repentance biblique. Donc nous avons remarqué aussi que le mot péché a une certaine définition dans la Bible qui est importante, qui veut dire manquer le but, manquer la cible. Je vous rappelle que nous avons été créés pour vivre en harmonie avec Dieu. À partir du moment où nous faisons des choses qui sont contraires à ce que Dieu veut pour les êtres humains, ça s'appelle le péché. Okay, ça veut dire que nous manquons la cible. Je vous ai fait remarquer aussi que le péché est une action. Le péché n'est pas la pensée, le péché n'est pas un sentiment. D'ailleurs, si vous remarquez dans Éphésiens chapitre 4, je crois que c'est au verset 30 ou quelque chose comme ça, il est dit « si vous vous mettez en colère, ne péchez point ». D'accord ? Ça veut dire que la colère n'est pas un péché. Pourtant, la colère est un sentiment. Par contre, si tu laisses la colère monter un peu trop, qu'est-ce qui va se passer ? Tu vas agir sur ta colère. Et si tu agis sur ta colère, c'est là où tu franchis la frontière du péché. Ça peut être verbalement, ça peut être avec des actes physiques, des actions donc d'une manière générale, mais même verbalement, à partir du moment où nous agissons sur notre colère, nous pouvons dire des mots qui dépassent largement ce que nous pensons au départ. Et c'est là où nous péchons. C'est ce que la Bible nous montre. Donc rappelez-vous, le péché... c'est une action, ce n'est pas la pensée. En aucun cas, nous avons vu le texte de Matthieu 5, et la Bible est bien claire là-dessus. Jésus s'adressait à des gens qui étaient morts spirituellement. dans un contexte où si ton œil est une occasion de chute, arrache-le. Si ta main est une occasion de chute, coupe-la. Et Jésus s'adressait à des inconvertis, à des gens qui n'étaient pas nés de nouveau, et il leur montrait que finalement, s'ils voulaient lutter contre le péché, ils ne pourraient pas le réaliser. Donc ça, c'était une première chose que nous avions vue. Ensuite, nous avons vu que la repentance implique trois domaines. L'intellect, les émotions, la volonté. D'abord, l'intellect, on a vu que quelqu'un qui se repent, il va changer ses façons de penser. Par rapport au péché, il prend conscience que le péché le souille, que le péché lui fait du mal et fait du mal au cœur de Dieu. Il prend conscience aussi de sa vie avec Dieu, c'est-à-dire il se dit « mais maintenant je ne vais plus vivre pour moi, mais je vais vivre pour Dieu ». Quelqu'un qui se repent, Dieu devient le centre de sa vie. Si quelqu'un dit « je me suis repenti », et puis finalement vous voyez qu'il vit encore pour lui-même, il y a un problème quelque part. Non, Jésus devient le centre, le personnage central de la vie d'un être humain qui s'est repenti et qui bien sûr est né de nouveau. Je vous rappelle que la repentance ouvre la porte à la nouvelle naissance, bien évidemment. C'est quelque chose qui va aller ensemble, mais il faudra recevoir le salut. Ça, on en parlera juste un peu plus tard. Ensuite, nous-mêmes, nous réalisons une chose, c'est que nous sommes responsables de nos actions. Ça, c'est extrêmement important. Il y a trop de gens qui blâment les autres en disant « j'ai péché parce que... hein, » Vous savez, souvent, aux informations, en Europe, on entend parler de gens, de jeunes. « Ah, le jeune, il a fait ça. Ce jeune homme a fait ça. Oui, parce qu'il a eu une enfance difficile, parce qu'il était dans un quartier difficile, parce que... » On lui cherche tout un tas d'excuses. Mais je suis désolé, nous sommes responsables de nos actions. Nous sommes responsables de nos actions. Quelqu'un qui vraiment commence à se repentir, il réalise qu'il est coupable. Que c'est pas parce qu'il était dans telle ou telle ou telle condition qu'il a fait telle ou telle chose. Mais à partir du moment où quelqu'un se repent sincèrement, il réalise, c'est vrai, je suis en tort, je suis pécheur, j'ai besoin de Dieu. Si quelqu'un n'est pas capable de dire ça et qui dit je me suis repenti, moi je dis c'est pas une vraie repentance. Ça. Oui, mais les autres m'ont fait faire ça et c'est pour ça que j'ai fait ça. Non, non. Quelqu'un qui est vraiment passé par une vraie repentance, il vous dira je faisais ça et c'était moi qui en étais. C'est vrai que j'étais influencé. Ça, être influencé, c'est un autre problème. Mais celui qui a fait la chose, c'est moi. C'était moi, c'est clair. Ensuite, nous avons remarqué que la repentance va toucher nos émotions. Il va y avoir une odeur de mort à l'intérieur de quelqu'un qui commence à passer par le processus de la repentance. Il commence à réaliser, à l'intérieur de lui-même, une tristesse selon Dieu. Il s'aperçoit vraiment qu'il y a une tristesse qui sent la mort. Hein. Tristesse selon Dieu, cette expression, nous l'avons vue dans la deuxième épître aux Corinthiens. Et je vous ai montré que parfois, il y a des gens qui manifestent des émotions quand ils se repentent. Par contre, d'autres ne manifestent pas d'émotions forcément, donc à l'extérieur. Hein. Il y a des gens vraiment, ils rentrent dans leur chambre et puis ils s'étalent devant Dieu comme morts en quelque sorte. Il y en a d'autres, bon... ils sont là, bon, tout se passe à l'intérieur, mais l'important c'est que ça se passe. C'est ça qui est important. L'important c'est le fruit. On reconnaît l'arbre à son fruit. On ne reconnaît pas l'arbre aux émotions, on reconnaît l'arbre à son fruit. Tu regardes 3 mois plus tard, 6 mois plus tard, 1 an plus tard, 10 ans plus tard, tu vois si cette personne vraiment, elle est attachée au Seigneur, elle aime le Seigneur, ou si c'était de la blague, tout simplement. Et souvent ça se voit assez rapidement. Vous savez, il y a des gens... qu'on peut encadrer, et moi en tant que pasteur, j'ai l'occasion d'encadrer un certain nombre de gens, on voit bien, il y a certaines personnes, bon, ils viennent à l'église, ils s'approchent à un appel, après ils vous déballent tous leurs problèmes, et c'est vrai, c'est des vrais problèmes, il n'y a aucun doute là-dessus, mais il y en a un certain nombre, c'est parce qu'ils veulent de l'aide, tout simplement, et le jour où ils ont cette aide-là, vous ne les revoyez plus, c'est classique ça, c'est tout à fait classique, par contre, il y en a d'autres, c'est sincère. Et là, on voit la main de Dieu. Vous savez, ce que je vois de plus en plus dans ce domaine-là, c'est quand quelqu'un est vraiment passé par une sincère repentance, qui donne sa vie au Seigneur et qu'on commence à voir le fruit, je vous assure, c'est incroyable de voir le nombre de gens qui sont tirés d'affaires, qui ont vraiment des gros gros problèmes. Mais quand ils se repentent sincèrement, de voir comment Dieu peut intervenir dans leur vie, ça c'est super. Par contre, ceux qui ne se repentent pas sincèrement, souvent ils ont la main tendue pour aller se faire aider et cherchent un secours humain tout simplement. Un secours humain au travers d'une organisation religieuse, c'est souvent le cas, vous savez. Mais ça, c'est pas une vraie repentance. C'est triste à dire, mais il y a pas mal de gens qui sont comme ça. Et vraiment, quand les gens sont sincères, mais Dieu fait des choses extraordinaires. Moi, j'ai vu des gens dans des situations catastrophiques, ils ont prié, on les a conseillés, et vraiment avoir leur situation complètement transformée parce qu'ils étaient sincères, parce qu'ils étaient passés par une sincère repentance et que vraiment Dieu a pu intervenir. Dieu ne peut pas intervenir dans l'hypocrisie, vous faites pas d'illusions, c'est clair. Quelqu'un qui dit qu'il vient au Seigneur et finalement il vient par une sorte d'intérêt,
en cherchant quelque chose dans l'église, dans tout ce que vous voulez, chrétien ou parmi des chrétiens, je vais vous dire une chose, Dieu ne pourra pas intervenir chez cette personne. Parce que c'est de l'hypocrisie. Si c'est de l'hypocrisie qui est là à la base, il n'y a pas de foi, il n'y aura pas une intervention divine. Par contre, quand quelqu'un est sincère, qui se repent, et même quelle que soit sa situation, je vais vous dire, Dieu peut faire des choses extraordinaires, des miracles extraordinaires, et la personne, quand elle est sincère, elle s'attache à son Seigneur, et d'un seul coup, vous la voyez complètement transformée. Et ça, c'est vraiment le fruit d'une repentance. C'est extrêmement important. Alors la volonté, hein, je vous rappelle qu'on va l'étudier plus précisément, mais on a tous une personnalité, donc ce qu'on appellera une âme, hein, on définira tout ça un peu plus tard. Et dans cette personnalité, bien sûr, il y a cet aspect de nos façons de penser, l'intellect, il y a que nous ressentons, et il y a aussi la volonté. Et la volonté, c'est vraiment le département de notre personnalité juste avant le passage à l'action. Ça veut dire que si quelqu'un qui s'est repenti, il dit non, moi je ne peux plus vivre comme ça, c'est plus possible. Il faut vraiment que Dieu intervienne dans ma vie, il faut que les choses changent, je ne peux plus accepter de vivre ma vie comme ça. Il commence à réaliser, il dit non, ça doit changer, ça va changer, il faut que ça change. Bon, cette personne commence ce processus en disant « Je veux changer mes façons de penser, vraiment je suis pécheur, j'ai besoin de Dieu. » Dans sa pensée, dans son intellect, les choses commencent à se faire. Ensuite, il y a cette conviction de péché qui est produite par le Saint-Esprit. Et à ce moment-là, dans les émotions, il y a quelque chose de fort qui se passe dans son esprit, dans ses émotions aussi. Il va y avoir quelque chose qui va se passer qui est très fort, cette odeur de mort, et la personne va crier vers un sauveur. Mais avant cela, avant que cette personne crie vers le sauveur et reçoive le sauveur, la dernière étape, ça va être dans sa volonté. La personne va prendre des décisions, elle va dire « Non, ma vie là, je veux que ce soit enterré, c'est fini. La vie de pêcheur, c'est terminé, j'en veux plus. Ces actions là, je les faisais parce que j'étais un pêcheur, mais maintenant je ne veux plus de ça. » Et à ce moment là, la personne va prendre une décision, et c'est ce qui va l'amener après au sauveur. C'est ce qui va l'amener à recevoir Jésus. Parce qu'on va voir que naître de nouveau, ça va être quelque chose d'actif. Il va falloir que la personne reçoive le Seigneur. Il ne faut pas seulement prêcher la repentance aux gens en leur disant « Détournez-vous de vos péchés, c'est tout. » Non, il n'y a pas seulement ça. Mais il va falloir se tourner vers le Sauveur et recevoir le Seigneur, recevoir le salut. Nous allons voir que la foi du salut permet justement de recevoir le Seigneur dans son cœur. Parce qu'il y a des gens qui en sont à cette étape-là et qui restent là malheureusement et qui courent encore en enfer. Parce que les gens n'ont pas compris qu'il fallait qu'ils reçoivent le Seigneur. Vous savez, il y a des gens qui sont conscients qu'ils sont pécheurs, qui sont travaillés à propos de leur péché, mais personne ne leur explique qu'il faut simplement recevoir le Seigneur. Et là, il va y avoir une action concrète que la personne va faire. Ça impliquera donc sa volonté. Alors, je vous ai montré que comme la repentance touche la volonté, elle va impliquer trois domaines. Donc, la confession des péchés, l'abandon des péchés et se tourner vers Dieu. Alors, on va reprendre d'abord la confession des péchés. La confession des péchés. Parce que ça aussi, c'est des points qui sont importants. Vous devez au moins le voir une fois dans votre vie, parce qu'il y a beaucoup de choses qui tournent autour de ça et qui vraiment posent beaucoup de problèmes. Regardons dans le psaume 38, verset 19. Psaume 38, 19. Il est dit « Car j'avoue ma faute et je suis dans l'anxiété à cause de mon péché ». Là, on parle à des gens qui viennent se repentir, d'accord? On ne parle pas à des chrétiens nés de nouveau, hein, qu'on soit bien d'accord. Faites attention quand vous lisez l'Ancien Testament, de ne pas prendre ce genre de texte et vous l'appliquer à vous personnellement. Ça, c'est quelqu'un qui vient pour la première fois à Christ. Il est convaincu de péché, et il est dans l'anxiété à propos de son péché. Si quelqu'un dit « Oui, moi j'ai accepté Jésus, mais bon, finalement, je... être pécheur, vraiment, non, bon, j'y étais pas vraiment, quoi. » Là, j'ai un problème avec ça. Non. Tout homme est pécheur, nous dit la Bible, il faut être bien clair, avant qu'il naisse de nouveau. Le jour où tu nais de nouveau, tu n'es plus un pécheur. Ça, c'est bien clair. Mais là, il est dit, j'avoue ma faute. Et avouer sa faute, c'est bien de dire sa faute. Ça veut dire, c'est de confesser, de parler sa faute à Dieu, bien évidemment. Alors, la Bible ne nous dit pas, parce qu'il y a beaucoup de choses qui courent autour de ce problème-là. Il y a certains pasteurs, malheureusement, ou certaines personnes qui abusent. Là aussi, vraiment, je dénonce les abus parce que ça me fatigue beaucoup. Vraiment, ça crée beaucoup de problèmes dans le corps de Christ. Si une personne vient au Seigneur, elle n'a pas besoin de vous déballer tous les péchés qu'elle a fait. Parce que d'abord, on ne se rappelle pas de tout ce qu'on a fait. Ça, c'est la première chose. C'est une confession générale. Quand quelqu'un vient au Seigneur, il reconnaît qu'il est pécheur, d'une manière générale. Mais il n'a pas à déballer tous ses péchés. De toute façon, on ne peut pas se rappeler de tout ce qu'on a fait. Je ne pense pas que vous soyez capable de dire tout ce que vous avez fait. Moi, j'en suis incapable, totalement, avant d'avoir été sauvé. On n'est pas capable de faire la liste de tout ce qu'on a fait. Et d'ailleurs, ça a été un abus de certaines personnes qui profitent. Il y a certaines doctrines, d'ailleurs, qui courent ici, où on amène les gens et on leur dit, oui, avant de pouvoir être sauvé, il faut que tu marques sur un cahier tout ce que tu as fait. Tu vas demander à Dieu pour qu'il te donne la liste de tous les péchés que tu as fait, parce que si tu en oublies un, Dieu ne va pas te pardonner. Mais je vous assure, ça court. Et je dirais même qu'on essaye d'appliquer ça à des chrétiens nés de nouveau, grave. Et nous verrons que quand le Seigneur efface nos péchés, c'est terminé, il ne s'en souvient plus. Nous verrons ça dans Ésaïe 43. Mais c'est extrêmement important. La confession du péché, c'est une confession générale. Une personne qui vient et qui se repent et dit, voilà, Dieu, je suis un pécheur. Tu sais ce que j'ai fait. Dieu connaît, de toute façon. Il n'y a pas besoin d'aller lui rappeler 50 000 trucs. Il sait très bien. La Bible nous montre qu'il y a un acte, il y a quelque chose. Vous savez, quand un pécheur, quand quelqu'un n'est pas dans le royaume de Dieu, la Bible nous dit que dans le ciel, les choses qu'il fait sont marquées. Et le jour où nous demandons pardon à Dieu, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, nous dit la Bible dans Colossiens 2, c'est effacé par le sang de Jésus. Donc, quand quelqu'un vient à Christ pour la première fois, il confesse son péché d'une manière générale. C'est la même chose d'ailleurs qu'on peut voir dans Luc chapitre 15, verset 21. Luc 15, 21, hein, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'abus par rapport à ça, et je dirais même qu'il y a des personnes qui sont très malsaines, qui cherchent, surtout envers les femmes, vous savez, ils conseillent des femmes, ils leur disent « Oui, raconte tous les péchés que tu as faits, etc. » Et ils se délectent de savoir ce qui s'est passé, quoi. Avec tous les détails, comme disait quelqu'un, les détails croustillants, si vous comprenez ce que ça veut dire. En fait, certains détails qui vraiment n'ont absolument aucun intérêt pour un serviteur de Dieu. C'est important. Le péché, nous allons voir, bien sûr, se confesse envers Dieu. Dans Luc 15, 21, c'est l'image. Vous connaissez cette parabole, cette histoire que Jésus raconte du fils prodigue. Dans Luc chapitre 15, verset 21, bon, le fils prodigue, c'est souvent une histoire qu'on prend pour prêcher à des gens qui se sont éloignés de Christ, hein, qui étaient à Christ pendant un certain temps, qui sont retournés dans le monde. Mais l'idée de cette histoire, Jésus montre un des fils, il y avait deux fils, il y en a un qui s'en va avec l'héritage du père, et il va dépenser tous ses biens. Et tout ce qu'il va faire, tous ses péchés, la Bible nous dit en gros ce qu'il a fait. Et quand ce jeune homme revient vers son père, bien sûr, le Père, c'est l'image de Dieu le Père. Au verset 21, le Fils dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. » Le Fils ne vient pas dire, « Tu sais, Père, j'ai vu telle prostituée, ça plaît, hein, on a fait ça et ça ensemble, puis avec tel garçon, on a fait telle et telle chose avec l'argent, et puis avec tous les détails. » Non, il lui dit simplement, « J'ai péché contre le ciel et contre toi. » Ça veut dire quoi? C'est une confession globale, tout simplement. C'est ça, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. Donc, quand une personne se repent, je parle d'un inconverti. Là, on parle de la repentance pour les inconvertis. Je tiens à le préciser. Nous parlerons de la repentance pour un chrétien qui pêche. Mais ça, on en parlera un petit peu plus tard. On va traiter ce sujet, vous inquiétez pas. Là, nous traitons l'inconverti qui vient pour la première fois à Jésus. Ensuite, je vous montrerai, si vous êtes fils ou fille de Dieu, quand nous péchons, qu'est-ce qui se passe pour nous et comment nous pouvons restaurer la communion avec Dieu. Nous verrons. C'est extrêmement important aussi. Parce que ça vous enlèvera certains préjugés ou certaines condamnations que la Bible éclaircit. Et c'est extrêmement important de savoir où nous en sommes en tant que chrétiens nés de nouveau. Là, c'est un pécheur. Le pécheur vient, il n'a pas besoin d'aller raconter tous ses péchés, hein, faire toute la liste de A jusqu'à Z publiquement. Non, ça, c'est très rare. On n'a qu'un exemple dans la Bible où c'est fait, mais en général, ça n'est pas fait dans la Bible. Donc, on ne peut pas en faire une règle en disant, voilà, un pécheur qui vient, raconte tout ce que tu as fait au micro, et puis après nous prierons pour toi pour que tu reçoives Jésus. Non, c'est la honte pour la personne. On n'est pas là pour humilier les gens. Quand quelqu'un a péché, il le sait, il vient avec un cœur repentant auprès du Seigneur, et l'important c'est qu'il reparte avec Jésus dans son cœur, bien évidemment. Donc, la confession des péchés. Ensuite, l'abandon du péché, c'est la deuxième chose. Donc la personne dit son péché à Dieu d'une manière générale, et la deuxième chose c'est l'abandon du péché. Il y a un très beau proverbe, Proverbe 28, verset 13. Proverbe 28, 13 va nous montrer, c'est vraiment un beau proverbe, il faudrait que vous entouriez ce verset dans vos Bibles, parce que c'est vraiment un beau proverbe, d'une grande vérité. Proverbe 28, 13. Proverbe, c'est à peu près au milieu de vos Bibles, après les psaumes, juste après les psaumes. Proverbe 28, verset 13, c'est bon, à peu près au milieu de vos Bibles. Je laisse les futurs prédicateurs chercher dans leurs Bibles. Proverbe 28, verset 13. « Celui qui cache ses fautes ou ses transgressions ne réussit pas, mais celui qui les confesse et les délaisse trouve compassion, trouve le pardon. » Alors, il y a l'idée de confesser, mais il y a aussi l'idée de délaisser. Quand une personne vient à Christ, vous savez, il y a des gens, des fois, ils disent « Oui, c'est vrai, je suis pécheur. » Il y a des gens qui sont comme ça. Des gens qui vous disent « Oui, oui, mais je ne peux pas m'empêcher de le faire. » D'accord, mais ça veut dire que tu retombes. Et tu as besoin, bien sûr, de Jésus. À ce moment-là. Mais quand une personne vient sincèrement, qu'elle est convaincue de péché, elle confesse son péché, mais aussi elle délaisse son péché. Elle veut abandonner son péché. Ça, c'est extrêmement important. En général, vous savez, quelqu'un qui se repent, il doit prendre une décision. Il doit prendre une décision. Délaisser. Parfois, malheureusement, on est obligé de couper avec certaines relations. un garçon qui a une copine ou une fille qui a un copain, le mieux, c'est que on coupe la relation directe. Quand quelqu'un se repent, il va couper cette relation. Ça doit être clair. Parce que tu peux pas aller jouer, aller coucher avec ton copain ou ta copine, et puis venir à l'église faire « Alléluia, Jésus, je t'aime ». Non, là, ça peut pas marcher. Ou aller faire des mensonges, de la corruption, ou tout un tas de choses derrière, et puis finalement dire « Voilà, j'ai Jésus dans mon cœur ». C'est les inconvertis qui rigolent dans ces cas-là, vous savez. Et ils ont raison de rigoler. Pourquoi ? Parce qu'ils disent « Oui, celui-ci, il va prier dans son église, là, il se dit tout ce que vous voulez, et puis finalement, il vit n'importe comment, il fait n'importe quoi ». Non, ça c'est pas une vraie repentance. Une vraie repentance, c'est quelqu'un qui dit, qui réalise vraiment, qui confesse son péché à Dieu et qui s'en détourne, qui dit non, ça j'en veux plus dans ma vie. C'est terminé, je me détourne de ces choses. Ésaïe 55, verset 7 aussi. Ésaïe 55, verset 7. Alors je vous rappelle, nous parlons ici de repentance pour quelqu'un qui n'est pas encore né de nouveau, d'accord ? Ésaïe 55, verset 7, donc dans l'Ancien Testament, Ésaïe, hein, je vous le rappelle, donc c'est dans les prophètes, que le méchant, alors que le méchant, l'inconverti, bien sûr, abandonne sa voie, et l'homme de rien, ses pensées. Donc l'idée, c'est abandonne. Quelqu'un qui se repent sincèrement, il abandonne son péché. S'il veut pas abandonner son péché, et des fois, il y a des gens comme ça, vous savez, ils savent que Jésus est la vérité, ils ont cette conviction de péché, ils se sentent très très mal à certains moments. Vous pouvez des fois les amener dans des réunions d'église, ils entendent l'évangile, ils sont travaillés dans leur cœur. Ils disent non, 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 je ne veux pas me lever à l'appel. Il y a des gens, ils refusent, parce qu'ils savent très bien que s'ils donnent leur vie à Jésus, ils devront abandonner un certain nombre de choses. Et ils ne veulent pas le faire. Il y a des gens qui ne veulent pas le faire, et c'est pour ça qu'ils ne passent pas par une sincère repentance. Donc de temps en temps, vous les voyez, ils viennent à l'église parce qu'ils sont attirés vers Dieu, parce qu'ils savent que c'est la vérité, mais ils refusent d'abandonner leur péché. Et quand quelqu'un refuse d'abandonner son péché, il ne pourra pas naître de nouveau. Pourtant, il pourra dire « Je sais que c'est la vérité, je sais que c'est vrai, je sais que Jésus, il est Dieu, il est la vérité, c'est le Sauveur, j'ai besoin de lui. » Mais la personne, vous voyez, elle fait un pas. Et de temps en temps, vous allez les inviter, ces gens-là, ils vont venir, sans problème. Ils vont assister, ils vont venir là, ils vont dire « Oui, vraiment, c'est bien, hein, c'est bien, j'ai envie. » Mais d'un autre côté, ils vont dire « Un, un, un. » Et ça, c'est le diable qui essaye de les retenir, pour pas qu'ils naissent de nouveau, bien évidemment. Et ça, c'est des gens, vous savez, ça serait une décision à prendre. Se repentir, c'est une décision. Personne n'est convaincu. Et il y a des gens qui sont dans cet état-là. Ils sont coincés entre deux chaises, entre guillemets, assis entre deux chaises. Vous avez déjà essayé de vous asseoir entre deux chaises. Vous savez, vous avez une chaise là, et vous mettez vos fesses entre les deux. Vous, c'est pas très confortable. Et en fait, ces gens-là sont comme ça. Ils sentent que le monde, c'est pas bon, hein, bon. Ils se mettent dans le péché, ils sont là, hein, et puis, au bout d'un moment, ils disent, non, 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 il faut que j'arrête là, parce que ça va plus. Ils disent, ah, ça serait bien quand même que je donne ma vie au Seigneur. Oui, 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 un peu plus tard, un peu plus tard, un peu plus tard, un peu plus tard, vous voyez. Ils veulent pas, parce qu'ils ne veulent pas se détruire de leur péché. Et il y a une décision à prendre chez un être humain, de dire, non, je refuse de continuer dans le péché. Troisième aspect, nous sommes en train de le voir, c'est se tourner vers Dieu. Se tourner vers Dieu. Là, on a parlé du péché, on a parlé de se détourner du péché, de confesser, d'abandonner. Mais maintenant, la personne doit aussi se tourner vers Dieu. Si la personne ne se tourne pas vers Dieu, il n'y aura pas de nouvelle naissance. Se tourner vers Dieu. Premier épître aux Thessaloniciens, chapitre 1, verset 9. 1 Thessaloniciens 1, 9. Ce verset montre très très bien l'aspect d'une vraie conversion, c'est-à-dire d'une vraie repentance. Hein, se convertir, se repentir, bon, c'est relativement semblable. Hein. Premier aux Thessaloniciens, chapitre 1, verset 9. Oh, vous fouillez beaucoup dans vos Bibles aujourd'hui. Hein. Il faudra vous habituer. Vous inquiétez pas, ça viendra. Plus vous fouillez dans la Bible, plus c'est facile. Ça devient automatique. 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 9. La Bible nous dit, donc c'est Paul qui parle aux Thessaloniciens, à l'église des Thessaloniciens. Et il dit, on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu, c'est-à-dire tourné vers Dieu, en vous détournant des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, pour vous convertir ou pour vous tourner vers Dieu. D'accord ? Donc, il y a ces deux aspects, et là on vient à l'aspect de se tourner vers Dieu. Quelqu'un peut confesser son péché, dire « je ne veux plus marcher dans le péché », mais dire « non, je vais adopter une religion ». Vous savez, il y a des gens qui sont comme ça. Il y a des gens qui prêchent l'église protestante, mais je suis désolé. On ne prêche pas l'église protestante, on prêche Jésus, c'est pas la même chose. c'est bien d'être dans une église locale. La Bible nous dit d'appartenir à une église locale, c'est vrai, aucun problème. Mais l'église ne sauve pas, le baptême d'eau ne sauve pas, les sacrements ne sauvent pas, seul Jésus sauve. Et ça, c'est important. Qu'une personne comprenne, dire... Parce qu'il y a des gens, voilà, ils disent, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour faire partie de votre église? Pour être membre de votre église. Vous savez, ils ne sont pas sauvés, ils vous disent ça. Oui, mais c'est pas ça le plus important. D'abord, c'est que vous soyez sauvés. D'abord, c'est qu'il y ait une transformation, une rencontre personnelle. Et pour que cette rencontre personnelle se fasse, la personne doit passer par une repentance, sincère repentance. Et ça, les gens sont terribles avec ça. Appartenir à une église, c'est bien, mais une fois que tu es né de nouveau, avant, ça ne te servira de rien. Strictement de rien. Te faire baptiser alors que tu n'es pas né de nouveau, c'est prendre un bon bain dans de l'eau fraîche. C'est tout. C'est rien de plus, mais ça ne te sauvera pas. C'est prendre son bain, hein, c'est tout. Rien de plus. Aller se nager dans la piscine, c'est tout ce qu'on fait, ou dans le lac, ou que ce soit, ou dans le baptistère. Mais finalement, une personne doit comprendre qu'elle doit se détourner, confesser, détourner de son péché, et se tourner vers la solution de Dieu. La solution de Dieu, bien sûr, ça va être Jésus le Sauveur. Et ça, la repentance implique vraiment cet aspect-là. Se tourner vers Dieu. Quelqu'un qui dit « Non, j'abandonne mon péché, je le confesse à Dieu », et qui ne se tourne pas vers Jésus, ne va pas naître de nouveau et va courir en enfer. Va courir en enfer. Et il y a des gens qui sont comme ça. Il y a des gens, ils disent, voilà, moi j'arrête de faire ça, j'arrête de m'enivrer, j'arrête de faire tout un tas de trucs, l'immoralité, etc. Et puis, je vais me planquer dans une église. Ça sert à rien de te planquer dans une église. Si t'es pas né de nouveau, de toute façon, ça ne te servira de rien. Strictement de rien. Parce que la nouvelle naissance... Ça va être l'étape indispensable. Mais d'abord, faut la repentance. Faut la repentance, une repentance claire. Et la personne qui se repent sincèrement, elle va forcément se tourner vers Jésus. C'est obligatoire. Si c'est une vraie repentance, si c'est du remords, comme nous allons le voir, le remords n'amène rien. C'est pas une vraie repentance. Avoir du remords, c'est regretter, simplement. Notons que la repentance, maintenant c'est des commentaires sur la repentance, c'est des points un peu particuliers sur la repentance qu'on va voir ensemble. Notez que la repentance n'est pas quelque chose que nous pouvons mériter. La repentance n'est pas quelque chose que nous pouvons mériter, mais c'est le résultat d'une recherche sincère, mais c'est le résultat d'une recherche sincère de la personne de Dieu. Mais c'est le résultat d'une recherche sincère de la personne de Dieu. Alors, comme je vous le disais, maintenant nous allons donner un certain nombre d'idées sur la repentance, des idées bibliques, bien sûr, qui sont des choses qui sont importantes. Matthieu 11, versets 20 et 21. Matthieu 11, versets 20 et 21. Jésus va faire un commentaire sur des choses. Matthieu 11, versets 20 et 21. J'aimerais vraiment vous montrer quelque chose ici qui est important. Matthieu 11, versets 20 et 21. Matthieu 11, versets 20 et 21. Jésus dit « Alors il se mit à faire des reproches sévères aux villes dans lesquelles avait eu la plupart de ses miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. » C'est-à-dire les gens dans ces villes-là avaient vu plein de miracles, mais ils ne s'étaient pas repentis. Il dit « Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits à Tyr et à Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties avec le sac et la cendre. » Ça, c'était une expression de l'Ancien Testament. Mais l'idée ici, c'est quoi? Les gens parfois disent « Ah, s'il y avait beaucoup de miracles, alors les gens se repentiraient beaucoup plus. » C'est pas tout à fait vrai. Les miracles n'amènent pas forcément la repentance. C'est quelque chose qui est important de bien comprendre. Voir des miracles n'amène pas forcément les gens à la repentance. Et même des gens qui vivent des miracles, parfois ne se repentent pas. Je vais vous raconter une histoire dans quelques instants, qui va peut-être vous étonner, mais qui est une vérité. Donc c'est pas les miracles qui amènent la repentance. Vous savez, il y a des gens, des fois, ils disent « Ah, si cette personne avait un miracle, si on priait pour elle, alors elle pourrait se repentir. » Pas forcément. Pas forcément. Vous savez, les miracles attirent les gens, ça c'est vrai, c'est indéniable. Si par exemple vous faites une croisade d'évangélisation, ou qu'à la limite vous avez un prédicateur qui vient dans un endroit, si c'est un évangéliste qui prie pour les malades, et que vous voyez des paralysés qui marchent, des sourds entendent, des aveugles voir, etc., les gens vont se masser autour. Ça, c'est clair. Il peut commencer une réunion. Je me souviens, quand on était dans les églises de Pentecôte en France, le mouvement de Pentecôte en France avait démarré en 1925, il y a bien longtemps maintenant, avec un évangéliste anglais qui s'appelait Scott. Et en fait, cet évangéliste anglais, il était dans le feu de la Pentecôte. Et en fait, il était venu en France parce que Dieu l'avait appelé à démarrer donc l'œuvre en France. Et c'était intéressant de voir comment il faisait. Bon, il allait par exemple dans des endroits, un peu comme des cabarets, mais un peu plus comme des styles restaurants, trucs comme ça. Et il louait l'endroit, par exemple le dimanche après-midi. Et puis, il mettait des affiches dans la ville. Et très souvent, il avait une petite foule, très petite foule, peut-être 20 personnes. Mais, il y avait souvent un ou deux miracles qui se passaient. Et le dimanche d'après, quand il continuait la réunion... Là, la foule avait largement grandi, passait de 50 à 100. Et puis, il se passait encore des miracles et des guérisons. Et là, les foules grossissaient, grossissaient, grossissaient. Parce que les miracles attirent les foules. Par contre, les miracles n'amènent pas à la repentance. C'est pas parce que quelqu'un a un miracle dans sa vie qu'il va forcément se repentir. Je vais vous raconter une histoire. On avait une amie qui était donc dans le mouvement de Pentecôte en France et son père était missionnaire en Haute-Volta, Burkina Faso, dans les années 70 à peu près, donc 70, à peu près 30 ans. Et cet homme donc était vraiment évangéliste. Il avait été un jour dans un village donc du Burkina Faso et il y avait une dame qui était en train de mourir sur son lit dans une hutte. Il est rentré là, il a prié pour cette femme. Et cette femme a été instantanément guérie. Elle est sortie donc de sa hutte et vous imaginez bien que le terrain était préparé pour que tout le village soit autour pour écouter l'évangile. Et c'est ce qui s'est passé. Tout le village était autour donc du prédicateur. La dame témoignait du miracle qu'elle avait vécu. Et donc ce prédicateur a prêché l'évangile. Quand il a fait l'appel, tous les gens du village se sont approchés et ont donné leur vie au Seigneur, sauf la dame qui avait reçu son miracle. Et c'est une histoire vraie que je vous raconte. C'est pas du pili-pili, c'est du vrai. Cette femme qui avait eu ce miracle ne s'est pas repentie, n'a pas accepté le Seigneur. C'est grave. Eh oui, et ça arrive. Vous savez, les gens, ils sont charnels. Les gens, ils veulent un petit truc de Dieu. Mais leur engagement avec le Seigneur, c'est une autre histoire. Parce que le jour où tu te repens et que tu acceptes le Seigneur, c'est commencer une vie nouvelle qui va jamais se terminer. Et c'est pour ici, sur la terre, d'abord, jusqu'au dernier jour, le jour où tu vas mourir. Et puis, ça continuera jusque dans l'éternité. Mais quelqu'un qui se repent sincèrement, qui passe par une sincère repentance, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il veut se détourner de son péché et il veut se tourner vers Dieu, tout simplement. Donc, les miracles n'amènent pas forcément à la repentance. Il est vrai que quand vous avez des miracles, les gens ont tendance à être très attirés et très interpellés. Et il y a plus de gens, en général, qui se donnent au Seigneur si vous avez un évangéliste qui prêche avec puissance plutôt qu'un évangéliste qui prêche avec moins de puissance, c'est-à-dire juste l'évangile, sans démontrer la puissance de Dieu. Ça, c'est clair. Mais d'un autre côté, Jésus en donne un exemple. Là, il parle des villes du nord d'Israël. Et dans certains endroits, à Capernaum, si vous lisez bien le début des évangiles, Jésus a été à Capernaum un certain nombre de fois. Et vraiment, dans cette ville-là, il s'est passé des choses absolument fabuleuses. Il y a eu des centaines de guérisons, il y a eu des dizaines et des dizaines de miracles qui se sont produits chez ces gens, dans cette ville. Et Jésus se plaint de leur attitude de cœur. Ils avaient soif pour recevoir la guérison, pour recevoir leur miracle, mais ils n'avaient pas soif d'engagement avec Dieu. Donc ne pensez pas parce que vous avez prié avec quelqu'un, que par exemple une personne a été guérie, qu'elle a expérimenté quelque chose. Et c'est bien, c'est très bien. Si quelqu'un est inconverti, qu'il a un besoin particulier, vous priez pour cette personne va recevoir quelque chose de particulier de la part de Dieu, Dieu va agir dans sa vie, mais ne pensez pas que c'est pas parce que Dieu a agi dans sa vie que cette personne va se donner obligatoirement au Seigneur. Il y a plus de chances qu'elle se donne au Seigneur, mais ça ne sera pas toujours le cas. Il y a des gens, et vous en connaissez comme moi, qui ont vécu des choses et qui après ne se sont jamais engagés avec le Seigneur. Il y en a d'autres, peut-être vous en faites partie, où quelqu'un d'autre a prié pour vous, un prédicateur a prié pour vous, vous n'étiez pas encore sauvé, et comme vous avez vu l'intervention de Dieu, alors après vous avez donné votre vie au Seigneur. D'accord ? Mais ce n'est pas un passage obligatoire. C'est-à-dire que si quelqu'un vit quelque chose de particulier avec Dieu, qu'il reçoit un miracle, une guérison, ou quelque chose de très particulier que Dieu va faire, parce qu'on a prié avec cette personne, eh bien, ce n'est pas obligatoire que cette personne se repente juste après. Ça peut arriver, c'est souvent le cas, mais ce n'est pas toujours, toujours, toujours le cas. Donc, il faut quand même faire attention par rapport à ça. Alors, notez aussi qu'une personne qui pense, qu'elle peut vivre dans le péché et se repentir au dernier moment. Une personne qui pense qu'elle peut vivre dans le péché et se repentir au dernier moment, juste avant de mourir. Une personne qui pense qu'elle peut vivre dans le péché et se repentir au dernier moment, juste avant de mourir, se trompe elle-même. Se trompe elle-même. Une personne qui pense qu'elle peut vivre dans le péché et se repentir juste au dernier moment de sa vie, c'est-à-dire juste avant de mourir, hein, il y a des gens qui sont comme ça, qui vous diront toujours « Oui, attends, je viendrai au Seigneur, mais attends un peu, je continue à vivre ma petite vie tranquille, je fais mes trucs, ce que j'ai envie de faire, et puis un jour j'y viendrai. » Ça, c'est des gens qui sont sous un esprit de tromperie, mes amis. Ils se font mentir par le diable, parce que peut-être qu'un jour, vous irez les enterrer en disant « Mais mon vieux, c'était trop tard. La mort t'a pris. » Personne n'est maître du lendemain, mes amis. Et il y a des gens qui jouent avec ça, c'est extrêmement dangereux. Il y a des gens qui jouent beaucoup avec ça. On verra un peu plus tard. Attends, quand j'aurai 40, 50 ans, oui, bon, j'approcherai la mort, peut-être, hein, pour ceux qui pensent mourir si jeune, hein, tant pis pour eux. Hein. Dieu nous promet une longue vie sur la terre. Hein. Maintenant, si vous voulez mourir à 40 ou 50 ans, c'est votre problème. Hein. Mais Dieu nous promet une longue vie sur la terre. Hein. Donc, ces gens-là se trompent eux-mêmes. Vraiment, c'est un mensonge terrible du diable. Le diable essaye souvent de dire, non, attends un peu, fais encore que truc. Là. Puis après, tu verras, après ça, tu feras. Oui, tu pourras. Attention. Ça fait penser à cette histoire qu'on raconte assez souvent de deux garçons qui entendaient l'évangile, qui ont entendu l'évangile plusieurs fois. Et un soir, ils étaient dans une réunion d'évangélisation et le prédicateur commence à dire « Attention, il y a ici des jeunes gens, c'est la dernière fois que vous entendez l'évangile. C'est votre dernière chance de donner votre vie au Seigneur. » Et il y avait deux garçons comme ça qui ont dit « Non, on verra, on va s'amuser encore un peu. » Ils étaient jeunes, vous savez. On va s'amuser et puis on viendra plus tard, prédicateur, on viendra plus tard. Ils sont partis, ils roulaient en moto, évidemment. Ce même soir, ils ont été tués parce qu'ils ont eu un accident de moto qui était mortel et c'était fini pour eux. Et il y a des gens qui sont comme ça, il y a des gens qui jouent avec la vie, mes amis. On ne joue pas avec la vie. Il y a une décision à prendre. Quand l'homme est confronté au message de la bonne nouvelle, ce que Dieu veut, c'est que les gens soient sauvés, c'est tout. Dieu, le Saint-Esprit... Constamment. Vous savez, nous sommes dans le temps de l'Église. Dans le temps de l'Église, ce qu'on appelle la dispensation de l'Église, nous étudierons ce que c'est qu'une dispensation plus tard, mais une dispensation, c'est un temps particulier où Dieu fait des alliances particulières avec les hommes. L'alliance particulière que nous avons actuellement, c'est l'alliance de l'Église. Aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la dispensation, le temps du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, sur toute la terre aujourd'hui, cherche constamment des êtres humains qui veulent ouvrir leur cœur pour les toucher, pour qu'ils soient convaincus de péché, pour qu'ils se repentent et pour qu'ils viennent au Seigneur, pour qu'ils naissent de nouveau, pour qu'ils soient arrachés au royaume des ténèbres pour venir dans le royaume de la lumière. Et ça, c'est le job du Saint-Esprit, c'est son boulot. Constamment, le Saint-Esprit fait ça. 24 heures sur 24 sur cette planète. Depuis le temps de l'Église, depuis la résurrection de Christ, le Saint-Esprit cherche les âmes. Constamment, le Saint-Esprit cherche les âmes pour que, justement, elle puisse venir à Dieu, pour qu'elle puisse venir à Christ. Et il faut faire attention, il y a des gens qui jouent avec leur vie, et croyez-moi, une fois qu'ils sont morts, c'est fini, terminé, c'est foutu pour eux. Il n'y aura pas de salut après la mort. Ensuite, une autre chose qui est importante, l'amour et la bonté de Dieu doivent nous amener à la repentance. L'amour et la bonté de Dieu doivent nous amener à la repentance, non pas la peur. L'amour et la bonté de Dieu doivent nous amener à la repentance, non pas la peur ou la crainte. Et ça, je vais vous expliquer quelque chose d'important. Nous prêchons la bonne nouvelle, pas la mauvaise nouvelle. Vous savez, il y a des prédicateurs de la mauvaise nouvelle. Non, nous prêchons la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. C'est l'amour de Dieu, c'est l'amour du Sauveur à la croix qui doit amener quelqu'un à se repentir. Non pas la peur. Il y a des gens, vous savez, on les force à venir à l'Église. Certains parmi vous, vous avez été forcés à venir à l'Église parce que vous êtes des enfants de chrétiens, et vous forcez à venir à l'Église. On vous disait, il faut que tu viennes à l'église. Si tu viens pas, tu vas voir. Et vous étiez obligé de venir à l'église. Dieu soit béni, vous avez pris une décision après pour être au Seigneur. Mais il a fallu que vous preniez une décision, que vous réalisiez que Dieu vous aimait vraiment, pour venir à lui et pour vous donner à lui. Par contre, il y a des gens, vous savez, on fait des pressions sur eux pour qu'ils viennent à l'église. C'est pas comme ça que quelqu'un se repentira, mes amis. Si quelqu'un a peur de Dieu, il ne peut pas se repentir. Nous ne prêchons pas l'enfer, nous prêchons l'amour de Dieu, qui nous sauve de l'enfer, bien sûr. Mais nous prêchons l'amour de Dieu. Quand tu annonces Christ, tu annonces l'amour de Dieu. Et en prévenant aussi du jugement à venir, bien sûr. Mais la motivation d'un être humain, quand il vient au Seigneur, c'est qu'il désire vraiment Dieu même. Il est venu, il a envoyé son Fils pour mourir à ma place sur la croix, simplement parce qu'il m'aime, pour m'éviter l'enfer. Ça, quelqu'un qui est touché comme ça, c'est quelqu'un qui est vraiment touché par l'amour du Seigneur. Quelqu'un à qui on dit, non, t'es un sale pécheur, repens-toi, sale pécheur, si tu ne te repens pas, arrête ta boisson, arrête tes histoires, arrête tes machins, arrête tes trucs, espèce de sale pécheur, et viens dans l'église, viens à Dieu. Quelqu'un qui est comme ça, parfois sous pression psychologique de la famille, des amis chrétiens, ou quoi que ce soit, c'est-à-dire maintenant, je suis le seul à être un païen, il faut que ça change, ce n'est pas bon. On ne peut pas donner sa vie au Seigneur par pression. On donne sa vie au Seigneur parce que vraiment, il y a quelque chose qui s'est passé en nous, et qu'on a réalisé des choses. Voyez. Et quand quelqu'un vient parce qu'on lui a fait peur, il y a des gens qui s'approchent à des appels et ils ont peur. Mais ils ont peur d'un Dieu de colère. Je suis désolé de le dire, ce n'est pas l'Évangile. L'Évangile, c'est l'amour de Dieu qui nous sauve du péché. Parce que sinon, effectivement, nous allons en enfer. Ça, faut être bien clair là-dessus. Et la personne doit être touchée par l'amour de Dieu. Elle doit réaliser son état de pécheur, ça c'est vrai. Et ça, il ne faut pas négliger la prédication sur le péché, ça, il faut être bien clair. Mais ce n'est pas d'avoir peur. Il y a des prédicateurs, ils n'annoncent que le péché est la condamnation du pécheur. D'accord. Mais il y a quelqu'un qui est venu justement pour enlever cela. Prêcher la solution. Nous devons prêcher et annoncer la solution. Et la solution, c'est l'amour de Dieu. Et à ce moment-là, quelqu'un est touché. Il dit, vraiment, ce Dieu, il m'aime. Et là, vraiment, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? À ce moment-là, la personne se repent, réalise qu'elle est sale, qu'elle est souillée à l'intérieur, et donne sa vie à Jésus. Et ça, c'est une vraie conversion, c'est une vraie repentance qui va amener à une nouvelle naissance. Non pas une religionisation de la personne. Il y a beaucoup de gens qui se religionisent, vous savez, c'est un nouveau terme. Ils sont remplis de religions protestantes, mais finalement, leur cœur est aussi vide qu'un païen. Eh oui, il y en a qui sont comme ça. Il faut être clair. On n'est pas là pour remplir les églises. On est là pour prêcher l'amour de Dieu qui va changer radicalement la vie d'une personne. On n'est pas là pour faire des protestants, je suis désolé de le dire. Moi, je trouve ça aberrant de dire « je suis protestant ». Ça ne veut rien dire. Tu es né de nouveau, tu n'es pas né de nouveau, c'est ça l'important. Ça, c'est numéro un. Ça, c'est vraiment numéro un. C'est fondamental parce que c'est la nouvelle naissance qui te sauvera. Ce n'est pas d'aller prier dans une église. Maintenant, c'est sûr qu'il faut un bon enseignement, c'est sûr qu'il faut un bon encadrement pastoral, c'est sûr que l'église locale est fondamentale pour la croissance. Mais ce n'est pas l'église locale qui sauve, c'est Jésus qui sauve. Et c'est l'amour de Dieu qui sauve. Et quelqu'un qui se repent sincèrement, il doit être touché par l'amour de Dieu. Et là, il va réaliser. Vous savez, quand l'amour de Dieu s'approche de vous, si vous êtes pécheur, vous vous sentez sale. Vous vous sentez sale à l'intérieur. Et vous avez envie d'une chose, c'est de dire, bah, cette saleté, j'en veux plus. Qu'est-ce qu'il faut faire pour m'en débarrasser? Et que j'ai la paix avec mon Dieu. Ça, c'est le vrai message de l'Évangile. Un puissant message de l'Évangile. C'est pas j'ai peur de Dieu, j'ai peur, je veux pas aller en enfer. D'accord. Mais c'est rencontrer l'amour de Dieu. À partir du moment où tu rencontres Jésus, Jésus est amour. Tu rencontres l'amour de Dieu. Et c'est ça qui va te transformer, c'est ça qui va te toucher, et c'est ça qui va t'amener à une sincère repentance. Et à dire maintenant, je veux accepter ce Dieu d'amour, et je veux qu'il change ma vie, je veux aller avec lui pour l'éternité. Ça amènera une vraie repentance. Notez qu'on ne peut pas forcer quelqu'un à se repentir. On ne peut pas forcer quelqu'un à se repentir. On ne peut pas forcer quelqu'un à se repentir si cette personne ne le veut pas. Si cette personne ne le veut pas. C'était une erreur des religions traditionnelles. Quand nous étudierons l'histoire de l'Église, je vous montrerai comment, à partir de l'Église primitive, donc de l'Église du 1er siècle, je vous montrerai les différentes persécutions par lesquelles l'Église est passée pendant presque 3 siècles, puis un certain Constantin, un empereur romain, a décrété que maintenant le christianisme pouvait être légalisé dans l'Empire romain. Et il y a eu tout un tas de mélanges entre le vrai christianisme et les religions païennes. Et puis après, au bout d'un moment, donc la religion traditionnelle catholique, je ne suis pas anti-catho, loin de là. Quand je parle de ça, je parle pour l'histoire, d'accord ? Faites attention à ça. Personnellement, je n'ai rien contre les cathos. Je connais des cathos qui sont nés de nouveau, qui sont sauvés, qui sont encore dans leurs églises, mais qui fréquentent aussi des groupes pour être enseignés dans la parole de Dieu et qui ne prient plus les trucs bizarres, bien évidemment. Qu'on soit bien d'accord, qu'ils sont au clair. Mais, je tiens à le souligner parce que sinon, on va encore tordre mes propos. Les trucs qui ne sont pas scripturaires, on est bien d'accord, qui sont clairs avec la doctrine. Bon, mais qui restent plus dans leurs églises traditionnelles pour amener d'autres au Seigneur. Et en fait, pour les aider à découvrir le Seigneur. Et en fait, l'Église catho a fait une erreur en Europe assez rapidement, c'est qu'elle a voulu christianiser les pays, tout simplement. Donc forcer les gens à quoi faire ? À devenir chrétien. Et ça, c'est une erreur. On ne peut pas forcer quelqu'un à devenir chrétien. Une personne accepte Christ parce que d'abord, elle a soif. Ensuite, il y a une conviction du Saint-Esprit, nous l'avons vu, donc il y a le travail du Saint-Esprit, et qu'après cette personne répond à la conviction du Saint-Esprit en disant « mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse ?» Et à ce moment-là, se tourne vers Dieu. Mais on ne peut pas forcer quelqu'un. Si on essaie de forcer quelqu'un à la repentance, hein, ça ne marchera pas. Vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à la repentance. Cette personne fera semblant de se repentir. Et vous ferez un beau poroti hypocrite. Hein, c'est ça que vous ferez. C'est pas mal. Hein. C'est rempli. Hein. Il y a beaucoup d'églises qui sont remplies de gens comme ça, vous savez, qui se font semblant, qui sont là, qui sont même pas nés de nouveau, par contre, qui ont été élevés dans des mentalités et qui sont capables de vous saluer avec des yesashimwe et qui finalement, quand vous leur demandez leur témoignage, eh bien, voilà, en fait, je suis chrétien parce que j'appartiens à telle église et que je me suis fait baptiser dans l'eau. Voilà, gloire à Dieu, amen. Non, c'est pas ça, être chrétien. Désolé, mais là, t'as tout faux. Et la même chose pour des cathos, c'est la même chose. Les gens se disent chrétiens, pourquoi ? Un vrai chrétien, comme nous le verrons, c'est quelqu'un qui est passé d'abord par une vraie repentance, mais aussi quelqu'un qui est passé par un changement radical de nature qui s'appellera la nouvelle naissance. Et ça, c'est une transformation de vie, c'est une révolution totale, ça va être une recréation de notre esprit. Et quelqu'un qui est passé par la nouvelle naissance, s'étant repenti, est capable de témoigner, de dire voilà, voilà vraiment ce qui s'est passé dans ma vie. Voilà comment je vivais avant, voilà le jour où j'ai reçu Jésus, et depuis que j'ai reçu Jésus. Et on verra qu'il y a trois phases dans la vie d'un être humain qui nous montrent clairement quand quelqu'un est né de nouveau. Mais nous en parlerons la prochaine fois.